BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, nous allons vous démontrer que notre sous-sol français a vraiment tout pour réussir. Nous parlerons notamment de deux entreprises qui veulent produire massivement du lithium en France. Le lithium, ce métal indispensable aux batteries de véhicules électriques. Notre premier invité est Pierre Brossolet, le PDG d'Arvern Group. Son entreprise recherche le lithium dans la profondeur des eaux géothermales en Alsace. On vous expliquera tout dans un instant. Et l'autre technique de production du lithium, c'est d'aller le chercher toujours très en profondeur dans le granit. Un projet est en cours de développement dans l'Allier. On en parlera avec Olivier Demougin, le vice-président stratégie du groupe Imerys. Enfin, autre richesse du sol et du sous-sol français, ses ressources en pierre de construction, la pierre de taille qui, on va le voir, redevient très tendance grâce à ses qualités esthétiques bien sûr, mais aussi écologiques. Mon troisième invité est Marc Verrecchia, le président du groupe Verrecchia, qui est en train de relancer une filière pierre de taille en France. Mais tout d'abord, l'appel d'un industriel de l'électroménager français qui a besoin de nous, qui a besoin de vous pour développer son activité. C'est Antoine Fiché, le président et fondateur de Dantec. Dantec, une entreprise que l'on suit depuis très longtemps sur BFM Business avec, vous les connaissez bien, Bob, son mini lave-vaisselle et Joe, le four multifonction. Tout cela, c'est du made in Vendée. Et pour développer de nouveaux produits, eh bien, mais aussi pour construire une deuxième usine en Vendée, Dantec a besoin d'argent. L'entreprise lance donc une campagne d'investissement destinée aux particulier. Antoine Fiché est venu dans nos locaux il y a quelques jours pour nous en parler. Il était interrogé par Annalisa Capellini. Bonjour Antoine.
Bonjour Jérôme. Nous aussi on pense que la France a tout pour réussir et donc on est super fiers d'annoncer aujourd'hui le lancement de notre campagne de crowd equity et donc l'ouverture de notre capital pour toutes les Françaises et tous les Français. Parce qu'on pense justement que pour faire de grandes entreprises industrielles, nous devons, on a besoin de capitaux. Et donc pour avoir des capitaux, on va avoir des institutions publiques, on va avoir des fonds d'investissement. Et aujourd'hui, on propose à notre communauté d'investir dans le Made in France. Voilà, donc c'est un peu pour montrer que c'est possible de réindustrialiser la France, que c'est une volonté collective. Et donc on veut faire de Dantec une réussite collective. Donc on est très heureux, ça se passe sur la plateforme CrowdCube, c'est à partir de 200 euros. Donc tout le monde peut investir dans le Made in France, dans Dantec. Et avec cet argent, on va pouvoir développer une gamme de produits. Donc après notre premier produit, Bob le lave-vaisselle, et notre second produit, Joe l'appareil de cuisson, on a beaucoup d'idées dans l'univers de la cuisine et de la maison. Avec ces capitaux, on va pouvoir aussi concrétiser notre projet d'une nouvelle usine en Vendée, donc à 10 km de notre usine actuelle, sur un site de plus de 11 000 m² pour justement fabriquer notre gamme d'appareils électroménagers. Donc investir chez nous, c'est très concret, c'est de la création d'emplois au niveau local, c'est de la création de bâtiments industriels, c'est de la création de richesses pour la France. Donc si vous voulez soutenir notre mission de l'électroménager éco-responsable et made in France, n'hésitez plus, investissez dans Dantec, vous êtes les bienvenus.
Voilà donc investissement minimum, vous l'avez entendu, de 200 euros sur la plateforme CrowdCube. Objectif récolter 1 million d'euros. C'est plutôt bien parti puisque ce vendredi matin, jour où on enregistre l'émission, 600 000 euros déjà recueillis. Et je recevrai Antoine Fiché sur ce plateau pour faire un bilan de l'opération. Ce sera le vendredi 21 juin. Alors après l'électroménager tricolore, une question. Et si la France devenait un important producteur de lithium, ce métal si utile puisqu'il est l'un des éléments principaux des batteries des véhicules électriques? On va en parler avec nos deux premiers invités qui se battent pour développer justement une production de lithium en France. Bonjour Olivier Demougin. Vous êtes le vice-président du groupe Imerys en charge de la stratégie. Votre stratégie, elle, concerne le lithium et précisément d'aller le chercher en extrayant donc du granit et in fine du lithium dans les profondeurs de l'Allier. Objectif 2028, c'est bien
2028,
ça
2028, absolument.
On en parlera dans un petit instant. Et bonjour également à Pierre Brossolet.
Bonjour.
Vous êtes le PDG et fondateur d'Arvern Group, un groupe qui n'est pas du tout auvergnat, mais qui est basé à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et vous, le lithium, vous voulez aller le chercher via la géothermie, notamment en Alsace. Objectif juste avant 2027.
Exactement.
On en parlera donc de vos projets, mais sur les méthodes de production aussi. Mais tout d'abord, une fiche d'identité de vos groupes. On va commencer avec vous sur Arvern Group. Création en 2018. Vous-même, Pierre, vous venez du monde du pétrole, notamment chez Total et chez Morel & Prom pendant 20 ans. Arvern Group, ce sont, si je ne me trompe pas, trois filiales. Une consacrée au forage classique, une branche dédiée à la géothermie. Donc, vous allez chercher de la chaleur sous la terre, vous la transformez en énergie. Et puis, vous développez aussi, c'est votre troisième branche, celle qui nous intéresse aujourd'hui, le lithium géothermal via la branche Lithium de France. En quelques mots, c'est quoi le lithium géothermal?
C'est un lithium qui est extrait des eaux alsaciennes, des eaux profondes. Et donc, vous l'avez dit, il y a un nom commun à notre activité, c'est la géothermie. Arvern est une société à mission qui a pour raison d'être de produire des énergies du sous-sol, des produits, des énergies décarbonées, avec voilà, un fil directeur principal aujourd'hui qui est là, ou plutôt les géothermies.
En 2023 comme en 2022, un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros, pour l'instant réalisé essentiellement dans l'activité forage. Vous avez 200 salariés en France environ et cotation en bourse depuis l'année dernière. On reparlera des levées et de ce que vous a apporté cette levée, cette entrée en bourse en 2023 parmi vos investisseurs, ADEME, Renault ou encore le Crédit Mutuel. Je me tourne vers Imerys. Imerys qui est l'héritier d'une entreprise très ancienne, Peña Roya, qui a été créée je crois en 1880 par la famille Rothschild. Dans les années 1970, des rachats d'entreprises qui mènent à une holding baptisée Imetal, et le nom Imerys date lui de 1999. Vous aussi, cotation à la Bourse de Paris. Un chiffre d'affaires qui approche les 4 milliards en 2023. 13 700 salariés dans 54 pays. Pour la France, combien de salariés ?
Environ 2 000 salariés sur une trentaine de sites.
Et donc, développez-vous une autre technique que celle d'Arvern. On va en reparler plus en détail dans quelques instants. Mais tout d'abord, messieurs, un peu de contexte. Je le disais, il va nous falloir beaucoup, beaucoup de lithium. Vraiment, les besoins vont exploser. Olivier de Mougins, on sait que c'est vraiment un métal, une matière dont on va avoir besoin. Donc, autant la produire en France.
Exactement. Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, les besoins de lithium, la production est de l'ordre d'un million de tonnes. En 2030, on parle de plus de 3 millions de tonnes. C'est évidemment, ça nécessite d'ouvrir de nouvelles mines, d'ouvrir de nouvelles ressources, quelle que soit la source utilisée. On parle de 50 millions de véhicules électriques par an à l'horizon 2030. Donc quand on parle de plusieurs dizaines de kilos de lithium par véhicule, il faut évidemment être capable de fournir cette matière.
Et dans un contexte où on nous annonce la fin, normalement, on ne sait pas si ce sera le cas, des véhicules thermiques en 2035 en Europe. Le marché mondial, qui détient les parts de marché de la production de lithium ? Je ne sais pas qui veut prendre la main sur le sujet. Pierre ou Olivier, Pierre ?
Non, alors vous me corrigez si ça vous paraît inexact, mais aujourd'hui on a une production qui est majoritairement sud-américaine et australienne, avec une partie raffinage qui est principalement opérée en Chine. Donc on voit que l'Europe aujourd'hui est à la traîne, malgré l'ambition très élevée des gigafactories, puisqu'on parle de plus de 35 gigafactories en Europe qui fonctionnent, enfin, qui vont construire des batteries avec du lithium. Donc on voit que si on veut tenir nos objectifs de souveraineté, hein, puisque
enjeux,
le CRM Act, on a des objectifs nationaux et européens relativement ambitieux, il faut s'y mettre très vite.
Et pourquoi les autres s'y sont mis et pas nous ? Pourquoi la France est en retard ? Alors on est en train, avec vous, de le combler, mais pourquoi ce retard à l'allumage ?
Presque une question de vision politique que vous m'adressez là. On est en retard parce qu'on a mal anticipé, je pense, ce grand changement de paradigme, hein, qui est en train de s'opérer. Et puis parce que on a, et là c'est le côté positif, parce qu'il est jamais trop tard pour se rendre compte que, eh bien, il faut accélérer ou changer de stratégie. Donc aujourd'hui, l'Europe et la France ont assez massivement décidé de recouvrer leur souveraineté sur les métaux critiques, dont le lithium. Donc je pense qu'il y a eu un peu de retard à l'allumage, mais rien n'est perdu.
Alors on va se concentrer bien sûr sur les projets français dans cette émission. En France, pour aller chercher des choses dans le sous-sol, il faut ce qu'on appelle un PER, un permis exclusif de recherche. Olivier, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un PER et chacun de vos deux groupes, combien vous en avez ?
Alors vous donnez un chiffre exact, ça dépend un peu de parcelles, etc. C'est l'autorisation de rechercher, puis à terme de demander la possibilité d'extraire le sous-sol qui appartient à l'État.
Alors vous, du côté d'Imerys, vous en avez combien ?
Je ne pourrais pas vous donner le chiffre précis.
Vous ne savez pas. Mais vous en avez eu un, en tout cas, donc depuis le 1er janvier, parmi ceux qui ont été délivrés le 1er janvier pour le site de l'Allier. Du côté d'Arvern, combien de PER, tous sites confondus ?
Alors c'est un peu plus complexe s'agissant du lithium géothermal, puisqu'on superpose un permis, un PER lithium, à un PER géothermie. Donc ça me permet justement de faire le lien. On a aujourd'hui, pour répondre à votre question, on a une dizaine de PER en France, à l'échelon national, et 6 PER en Alsace. Donc 3 PER géothermie et 3 PER lithium, encore une fois, qui sont instruits dans des administrations différentes. Donc c'est pour ça qu'on a deux PER, ils se superposent. Et évidemment, on ne peut pas faire l'économie de la géothermie pour parler lithium, puisqu'il est extrait de ses eaux chaudes.
C'est l'un avec l'autre.
Il faut faire un petit retour en arrière pour parler du lithium alsacien, puisque la colonne vertébrale du projet, il est en géothermie. Donc voilà, moi je suis entièrement convaincu que la France a tout pour réussir dans les énergies, parce que aussi on a un potentiel en géothermie qui est le géant dormant des ENR qu'on a oublié pendant des décennies et qui commence à se réveiller. Et donc ces géothermies qui ont beaucoup d'usages et beaucoup d'applications en ont un qui est le lithium, qui était très méconnu mais dont on se rend compte aujourd'hui qu'il permettra de produire des volumes assez importants.
Donc vous êtes sur la partie, donc vous êtes dans la partie haute, je crois, de l'Alsace, dans le Bas-Rhin. Il y a d'autres projets qui sont en cours. Je crois que c'est l'électricité de Strasbourg pour le projet Eramet. Il y en a d'autres de l'autre côté de la frontière aussi en Allemagne. Lesquels sont les plus avancés? Vous avez une longueur d'avance ou pas? On en est où dans ce secteur du bassin rhénan?
Alors, ce qui est passionnant dans l'aventure du groupe Arvern et de Lithium de France, c'est que nous sommes une start-up, hein, puisqu'on a commencé il y a 5 ans, même si aujourd'hui on s'est introduit en bourse, on a fait une belle levée de fonds. On va très vite. Donc ça nous permet d'obtenir des autorisations, des PER, de lever des fonds, d'embaucher sur une thématique et une unique thématique puisque nous sommes nés pour ça. En face de nous, on a des gros players. Imerys, évidemment, qui n'est pas vraiment concurrent puisqu'on est sur
une autre technologie,
sur un lithium un peu différent. Mm-hmm. En Alsace, nous avons un consortium, on peut dire, de deux groupes que sont Eramet et Électricité de Strasbourg, filiale d'EDF, qui eux aussi, à leur échelle, à leur cadence, essayent d'extraire du lithium de ces eaux chaudes, mais avec un lithium de France qui est un peu un trublion, hein, au bon sens du terme, puisque la start-up, par essence, va vite, sait faire des choses, ose, fait des paris qui jusqu'à aujourd'hui ont été des paris gagnants, et encore une fois avec un modèle qui est doublement original, puisque ce lithium, évidemment la France et l'Europe en ont faim, mais on a une arme en termes d'acceptabilité qui s'appelle la géothermie, puisqu'elle décarbonne les usages très localement. Donc encore une fois, la géothermie revient au centre du jeu, c'est une énergie verte, c'est une énergie 100% renouvelable, elle est décarbonée, elle n'a pas besoin de beaucoup d'empreintes foncières, et elle est non intermittente. Donc cette géothermie, encore une fois, ne l'oublions pas, va changer la face des énergies.
Et la vision que l'on a des énergies.
Des énergies, ouais,
vous parliez de ce site, vous visez avec Lithium de France combien de tonnes par an et début de la production, on l'a dit en introduction, en 2027, hein, je crois.
On a un objectif de début de production en 2027 après avoir foré nos deux premiers puits, puisqu'on produit du lithium et de la chaleur qu'on extrait et ensuite on réinjecte. Hein, en termes de volume d'eau, il n'y a aucune déperdition. Le premier puits sera foré l'année prochaine et on aura une première production de chaleur en 2026, puis une première production de lithium en 2027 qui, après une phase de ramp-up, devrait nous mener à un plateau autour de 30 000 tonnes de LCE par an.
Ce qui représente combien de batteries électriques in fine en production?
Non, ce qui représente aujourd'hui mais là aussi ça varie quand même assez vite puisqu'on a appris que Bolloré par exemple allait s'installer
en Bretagne.
On a encore une nouvelle gigafactory qui pousse. Absolument. Mais entre un quart et un tiers de la production, du besoin des gigafactories en France.
Vous parliez, Pierre Brossolet, de votre entrée en bourse en 2023. Combien vous a-t-elle rapporté, en sachant qu'il y a eu, je crois, à part aussi une levée de fonds pour Lithium de France de 44 millions d'euros, hein, c'est ça?
On a levé 52 millions sur Lithium de France en deux tours,
52,
avec des acteurs norvégiens que sont Equinor et Hydro, qui ont des intérêts sur l'amont du lithium également. Et en parallèle, le groupe, donc maison mère de Lithium de France, a, lors de son introduction en bourse, levé 163 millions d'euros avec, comme vous le disiez, des partenaires de choix, puisque Renault est entré en signant aussi un contrat d'offtake, donc d'approvisionnement en lithium. L'État, France 2030, est rentré à travers l'Adem Invest, qui est son premier investissement dans une société cotée sur Euronext. Et Crédit Mutuel Equity, qui est la branche investissement ou capitalistique de ce grand groupe mutualiste, est rentré aux côtés d'autres fonds ou family office. Donc on a une vingtaine d'investisseurs rentrés au moment de l'IPO.
Après le Bas-Rhin, on va se tourner vers l'Allier. Donc on va parler d'Émilie. Parlez-nous de ce projet Émilie, cet acronyme que vous portez au sein du groupe Imerys, Olivier Demougin.
Absolument. Le projet Émilie, c'est un projet de 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an. Ça représente 700 000 véhicules à peu près. Combiné avec un autre projet que nous avons en Grande-Bretagne, on parle d'1,2 million de véhicules par an. Donc des projets très significatifs. C'est très complémentaire d'Arvéan Group, puisque par rapport aux chiffres qu'on a mentionnés de besoin mondial, on est clairement... On a besoin de tout le monde.
Oui, parce que ça fait peu. Je crois que tous vos projets ensemble, on serait à moins de 5%, je crois, de la production mondiale, hein, je pense.
Absolument. Nous, oui. Imerys, on vise 20% de la production européenne.
Voilà. C'est déjà beaucoup.
C'est ce qui est déjà beaucoup. Belle pierre à l'édifice.
Et donc, et dans l'Allier, donc vous, on est sur une autre technique. On ne va pas dans la géothermie, dans les eaux géothermales. On va chercher du granit et puis ensuite, il y a différentes étapes. Est-ce que, de manière courte, vous pouvez nous rappeler les principales étapes de votre technologie?
Bien sûr, notre lithium est contenu dans des micas. Qui se trouve, on va aller les chercher de manière souterraine, sous une exploitation de kaolin qu'on exploite depuis plus de 100 ans.
Qui est à Beauvoir, dans l'Allier, le site des Chassières.
Absolument, donc on connaît bien ce territoire. On va aller chercher ce mica, on va le concentrer, et ensuite par des procédés d'hydrométallurgie, qui sont des procédés assez classiques qu'on va combiner et adapter à ce gisement, on va obtenir un hydroxyde de lithium, qui est ce que vont consommer les fabricants de cathodes, puis les fabricants de batteries.
Et votre projet, donc, il y a le site qui est existant, mais il y a donc deux autres sites qui seraient mis en place, l'un du côté de Montluçon, l'autre du côté de Vichy. Donc c'est tout le sud du département de l'Allier que vous visez dans votre projet.
Absolument, c'est vraiment un projet qui va bénéficier à tout un bassin d'emploi. On parle de 500 à 600 emplois directs, plus de 1000 emplois indirects. Donc on espère des retombées économiques pour ce territoire très importantes.
On parlait du coût des investissements. Ça, vous l'avez chiffré à combien, cette phase d'abord de construction?
Alors le projet représente des investissements de plus d'un milliard d'euros, l'ordre de grandeur. Donc c'est des investissements lourds, hein, même pour une société qui représente 3,8 milliards de chiffre d'affaires et qui est déjà très active dans une trentaine de minéraux. On aura besoin sans doute de chercher un partenaire industriel ou commercial pour aller financer ce projet.
L'un et l'autre, quand je lisais différentes interviews, vous parlez du besoin de l'acceptabilité sociétale, sociale et environnementale. Il y a un débat public qui a été lancé donc dans l'Allier, mais au niveau national d'ailleurs, sur le thème de ce qu'on peut trouver dans nos sous-sols et de la recherche de lithium. On en est où de ce débat? C'est quoi les principales oppositions?
Alors là, on est dans le cadre de la Commission nationale du débat public qui a commencé au mois de mars et qui va se poursuivre jusque début juillet. C'est un débat qui est très riche, qui est assez intense et qui nous permet vraiment de poursuivre en profondeur ce dialogue, les parties prenantes. Les principaux thèmes, cela permet d'entendre des inquiétudes légitimes, de pouvoir y répondre dans une deuxième partie de l'année, puisqu'il y aura un rapport auquel on va proposer des réponses sur des thématiques qui sont des thématiques autour de l'eau, autour de l'impact visuel, sonore.
Vous avez les bons arguments, vous avez les bons éléments de réponse, parce qu'évidemment, les thématiques de la gestion de l'eau, la gestion de plein de choses, ça compte et de plus en plus.
Absolument, ce sont des vrais enjeux. Si on prend l'exemple de l'eau, le projet, on travaille sur un recyclage de 90% de nos besoins en eau. Notre consommation va représenter 1 pour 1000 de la sioule, du débit de la sioule. On va même avoir finalement, la manière dont on va lisser notre gestion de l'eau va nous permettre de rendre de l'eau en période de sécheresse. Ça, c'est la réponse qu'on a sur le thème de l'eau. Ensuite, on a fait le choix de parler de ce projet très tôt, dès sa conception, ce qui veut dire qu'un certain nombre d'études sont encore en cours, et donc ces résultats, on les apporte au fur et à mesure de la sortie des études.
Le mot de la fin avec vous, Pierre Brossolet, sur ce contexte, donc à la fois on a envie d'y aller, on a envie de créer des emplois, des industries en France et des métaux précieux, mais il y a des oppositions. Vous, votre position par rapport à ce paradoxe presque?
Alors notre position, elle est très claire, c'est qu'il n'y a pas d'exploitation sans adhésion massive de la population. Donc là aussi, on a une position où il faut absolument communiquer le plus tôt possible sur nos projets, dire les choses de façon transparente et évidemment amener la population presque dans nos projets pour qu'ils soient partie prenante de notre développement. On a une réponse, encore une fois, qui est une belle réponse, qui s'appelle la géothermie. La géothermie permet une adhésion puisqu'elle apporte de l'énergie décarbonée au plus près du consommateur, la chaleur ne se transportant que très peu. Donc on y arrive assez bien, je trouve. J'en profite pour féliciter mes équipes qui, tous les jours, font ce travail-là. Et la clé du succès, en partie, s'appelle la géothermie, qui permettra d'extraire le lithium et qui, normalement, devrait nous faire emporter l'adhésion de la population.
Eh bien, on le souhaite et on vous souhaite beaucoup de succès dans vos deux entreprises, des projets que l'on suivra bien évidemment. On était ravis de mettre à l'honneur vos projets concernant le lithium. Et après les sous-sols, on va revenir à la surface, ou en tout cas à de moindres profondeurs avec vous, Marc Verrecchia. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête d'un groupe, en fait d'une entreprise qui avait été créée par votre père, qui était maçon, Ricardo, c'est bien cela, en 1958. Oui. Vous en avez repris les rênes en 1990. Vous vous définissez maintenant maintenant comme un promoteur bâtisseur. Vous travaillez vous aussi en famille, je crois avec votre frère Franck et votre fille Servane qui a aussi rejoint le groupe. On va parler dans un instant de votre entrée au capital de Rocamat et de votre volonté de construire une filière sur la pierre de taille. Mais tout d'abord, rappelez-nous le cœur d'activité du groupe Verrecchia.
Oui. Alors le cœur d'activité, le premier point évidemment c'est la pierre de taille, ça c'était vraiment notre ADN dès le départ, et puis le deuxième c'est redonner du sens à la ville bien évidemment à travers les constructions, et aujourd'hui je pense qu'il y a un chantier assez important à réaliser sur l'avenir pour le rendre pérenne, environnemental et durable surtout, et puis je pense que la vision que l'on a nous de l'avenir sur le logement c'est surtout de ne pas se retromper comme on s'est trompé durant ces 70 dernières années.
Mais on s'est trompé avec quoi? Avec le béton.
Avec le béton, bien sûr.
Alors moi j'aime bien, je vais vous dire, si je vous ai invité, c'est un article du JDD il y a quelques semaines, et le journaliste Lomig Guillot écrit une phrase que j'adore, et si le béton n'avait été dans l'histoire de la construction qu'une parenthèse de
Absolument.
60 ans.
Mais bien sûr.
On est bien d'accord que la pierre de taille c'est plus esthétique déjà.
La pierre de taille elle est plus esthétique, mais surtout elle était là avant nous, elle est là aujourd'hui, elle sera là après nous, parce qu'elle a une caractéristique incroyable, elle est naturelle. Donc elle ne peut que perdurer. Et on peut aussi la réutiliser. C'est très important.
La fiche d'identité de votre groupe, combien de logements vous construisez par an en moyenne et le nombre de collaborateurs?
Alors on est une centaine de collaborateurs et puis on construit à peu près 1000 logements par an pour l'instant.
Et, oui, et vous avez
une ambition,
donc...
Bien sûr, avec une ambition forte dans les années à venir de progresser sur le nombre de logements.
Et comment se porte le groupe dans un marché immobilier qu'on nous dit en berne depuis des mois et des mois? Comment est-ce que les affaires vont?
En fait, si vous voulez, bien sûr que c'est compliqué parce que vous avez toujours des moments dans la vie du logement ou dans la vie d'une entreprise où les choses sont moins simples et plus compliquées. Ça fait quand même 34 ans que Verrecchia est sur la construction. J'ai dû entendre ça au moins 3-4 fois à travers mon parcours. Donc, je veux dire, vous savez, le principal, c'est qu'on se dit que évidemment, les gens chercheront toujours du logement et on cherchera toujours à habiter.
Quand on pense à la pierre de taille, on pense forcément à des immeubles haussmanniens, parisiens, chic, donc un peu cher. Est-ce que le coût de construction est le même que le béton? Est-ce que c'est plus cher? Et si oui, pour quelles raisons? Quels sont les avantages liés à cet éventuel surcoût?
Alors, bien sûr qu'on est plus cher que le béton. Bon, d'abord, c'est plus beau, donc faut que ce soit justifié.
Mais c'est combien? C'est 10, 15, 20?
Je pense que le vrai enjeu, il est écologique. Il est environnemental. Donc aujourd'hui, le béton n'est plus du tout d'actualité pour toutes les raisons que l'on connaît. Donc il faut le substituer, le remplacer par des matériaux géosourcés et biosourcés. La pierre de taille est donc passée du matériau oublié au matériau d'avenir.
Mais les bâtiments parisiens, ils ne sont pas très bien isolés. Est-ce que vous travaillez différemment la pierre de taille en 2024 qu'on le faisait il y a un siècle? Est-ce que les qualités intrinsèques, notamment sur l'isolation, qui est un point de plus en plus important, sont meilleures de la pierre de taille à l'heure actuelle?
Alors justement l'isolation, l'isolation surtout thermique, aujourd'hui, et principalement la qualité de la pierre de taille. La pierre de taille, elle a la plus forte inertie.
Oui.
Vous voyez, par rapport au béton, on est 72% moins émissif que le béton. On est 54% en économie d'énergie primaire par rapport au béton. Et je vais vous donner une raison très simple. Aujourd'hui, on est en plein réchauffement climatique. Je pense que ça échappe à personne. Tous les jours, on en parle. Et la pierre de taille, justement, avec cette forte inertie, et je reprends toujours quelque chose d'assez simple. En général, l'été, quand on va dans nos campagnes ou quand on va voir notre grand-mère ou notre arrière-grand-mère dans sa ferme, dans un lieu, c'est en pierre de taille.
Et je vous confirme que c'est mieux isolé que nos maisons.
À chaque fois, on peut dire qu'il fait frais chez eux.
Absolument. Absolument.
Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez simple.
Votre actualité, j'en parlais dans les titres, c'était il y a quelques mois votre entrée au capital de Rocamat. Alors, c'est le premier producteur de pierre en France avec une trentaine de carrières de calcaire. Entreprise créée en 1853 qui emploie, je crois, près de 160 personnes. Mmh. Vous avez, vous, 10%. C'est une co-entrée avec le Canadien Polycor. C'est quoi le but de ce rachat? C'est de structurer une filière de la pierre de taille en France?
Alors déjà, c'est d'additionner les forces. Polycor est le numéro un mondial de la pierre naturelle. Bon, il est canadien. Et effectivement, quand ils se sont regardés sur Rocamat, ils se sont dit qu'il faut qu'on prenne un acteur qui prend du sens. Donc naturellement, ils se sont dirigés vers nous. Alors ouais. En tant que fils de pierreux ou de tailleur de pierre, bon, déjà, c'était une première fierté. Et puis le deuxième point, on voulait contrôler toute la chaîne de production. Et on voulait évidemment pas rester que promoteur. D'ailleurs, on s'appelle Construction Verrecchia, c'est pas pour rien. Mmh. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'être un acteur qui contrôle, et on est les seuls en France à contrôler toute la chaîne de production, mais de la matière, c'est-à-dire posséder la matière, en passant par la découpe, la construction et la livraison. Et une matière environnementale, sociétale et une belle matière.
C'est de développer le volume aussi de pierres que l'on extrait en France et que l'on travaille en France ?
Absolument. Alors il fallait, c'est pour ça qu'on est allé avec Polycor, il fallait changer d'échelle, il fallait industrialiser la chose. Et industrialiser la chose, ça passe par évidemment ouvrir des usines. Donc notre première usine va s'ouvrir de 5000 m2.
Dans l'Oise, hein, je crois.
Dans l'Oise, à Saint-Maximin, au mois d'octobre. Donc on espère que notre président sera là parce qu'on est devenu un grand industriel. Et on va produire 30 000 m3 de pierres de taille, si vous voulez, sur une année, alors que sur une carrière, à l'époque, on produisait entre 3 à 5 000 m3 en découpage. Donc pour nous, c'est important.
Et vous dites qu'on a des réserves pour des siècles et des siècles, si on veut, de pierres de taille en France. Voilà,
absolument. On a plusieurs siècles de réserves. La France a la chance d'être un pays calcaire, donc on a des plateaux un peu partout sur l'ensemble de la France.
Eh bien voilà, donc encore un projet qui a sans doute un très bel avenir et que l'on continuera à suivre dans cette émission. Messieurs, merci beaucoup d'y avoir participé. La France a tout pour réussir. Vous la retrouvez bien sûr en télé, en radio et sur tous nos supports digitaux. La semaine prochaine, des sujets complètement différents, comme chaque semaine. Nous parlerons notamment de mobilier de jardin en métal avec la marque Fermob et Made in France bien sûr, ainsi que du site Un Coq dans le Transat pour ce meuble les tricolores. Très bonne journée, très bon week-end et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.